Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Avec vous pour le 10h midi sur Sud Radio, on est ensemble pour commenter l'actualité avec Virginie Leguet. Bonjour Virginie, chef adjoint au service politique de Paris Match. Et on va se retrouver dans un instant pour commenter l'actualité avec également Jean-Luc Touly, président du FRIC, Mathieu Alterman, journaliste, et Éric Revel, j'ai fait une jolie liaison, Éric Revel, directeur de la chaîne Azur TV. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Bonjour, si vous nous rejoignez, on est ensemble jusqu'à midi pour commenter l'actualité. On va évidemment, il ne faut pas laisser le débat autour de l'islam radical retomber. On va en reparler. Il y a un sondage qui nous apprend que les Français souhaitent que l'État aille encore plus loin. Covid, vers un reconfinement. On sent qu'on y va lentement, mais sûrement. 0826 300 300. On en parle avec Virginie Leguet, chef adjoint au service politique de Paris Match. Bonjour Virginie.
Bonjour,
avec
bonjour
la une qui est évidemment consacrée à Samuel Paty avec sa photo en pleine une. Jean-Luc Touly, président du FRIC, le Front Républicain d'Intervention contre la Corruption. Bonjour.
Bonjour.
Mathieu Alterman, journaliste.
Bonjour.
Vous êtes également auteur. Vous avez publié Femme fatale aux éditions Quai des Brunes. Et
prochain livre en mars.
Et Éric Revel, éditorialiste, directeur de la chaîne Azur TV. Bonjour Éric.
Bonjour Valérie, bonjour à tous.
On vous retrouve également tous les jeudis pour l'édito écho dans le Grand Matin, jeudi et vendredi pour l'édito écho sur Sud Radio dans le Grand Matin. Voilà. Donc c'est vrai qu'il faut continuer. On sent qu'avec le Covid, tout ce qui va toucher à Samuel Paty va peut-être retomber dans les débats, mais nous, on ne lâchera pas et on va continuer à en parler. On va évidemment parler du Covid, puisque c'est la une de l'actualité également. Petit tour de table sur ce qui a retenu votre attention dans les dernières 24 heures. Virginie, commence avec vous.
Mon petit coup de cœur,
oui,
c'est ça ?
Oui.
Eh bien, un film qui est actuellement disponible sur le site d'Arte, qui s'appelle Les Héritiers, de Marie Castille, mention char, et qui est une histoire assez simple. Un prof de seconde qui a une classe un peu difficile décide de les préparer pour le concours national de la résistance et de la déportation. Les élèves au début sont non seulement très réticents, mais disent tous on n'y arrivera pas, on ne connaît pas, on ne sait pas, c'est pas du tout de notre niveau, on ne veut pas. Et le film raconte toute cette aventure collective, toute cette réappropriation de notre mémoire, toute cette façon de travailler ensemble, de ne faire qu'un pour aller à la découverte d'un passé dont ils ignoraient pour la plupart les grandes et les petites lignes. Ouais. Et je trouve que ce film s'inscrit parfaitement dans ce qu'on dit du débat actuel, de la façon dont les jeunes doivent comprendre le monde dans lequel ils vivent, le monde tel qu'il était hier, pour mieux préparer celui de demain.
Très bien, donc conseil, c'est sûr.
Magnifique film, très simple, très drôle, pas du tout pesant, pas du tout didactique. Franchement, je le conseille, j'allais dire, à vos replays tous.
Ça s'appelle Les Héritiers, donc sur Arte. Alors Mathieu Alterman, vous, c'est un...
Moi, c'est un coup de gueule qui ne date pas des dernières 24 heures, mais des dernières 72 heures, je crois. C'est la déclaration de David Béliard, adjoint à la mairie de Paris, qui annonce la suppression de 70 000 places dans les rues. Alors je sais que tous nos auditeurs ne sont pas à Paris, mais vous ne pouvez pas imaginer le cauchemar que nous vivons, au point que...
Mais c'est ce qui va gagner de grandes villes. C'est vrai que nous, on n'aime pas être trop parisiens, parce qu'on a beaucoup de nos auditeurs dans le sud-ouest, mais je pense que beaucoup de grandes villes, comme peut-être Bordeaux, vont aussi être confrontées.
Oui, enfin, je pense que ça ne va pas être aménagé de la même manière. Vous savez, le dernier chiffre, c'est qu'il y a 8% d'enfants en moins dans les écoles à Paris. Les familles partent. Ouais. Vous avez une maire qui a été élue démocratiquement.
Et réélue,
mais, il y a quand même un mais, dont les seuls maires d'arrondissement à sa cause sont dans l'est de la capitale. Donc en gros, vous avez l'est qui impose à l'ouest, où en plus c'est la partie où il y a le plus de bureaux et d'activités économiques, une politique. Résultat, vous allez le midi dans un restaurant dans l'est de Paris, il n'y a personne. Il n'y a pas de bureau. Donc ils ne peuvent pas se déplacer. Moi je suis venu ce matin en RER, j'ai un RER toutes les 14 minutes et je fais Paris-Paris. Oui, on est quand même dans une situation cauchemardesque. Il y a un moment, David Béliard, vous savez, il a sorti un livre pendant la campagne. Il en a vendu 180 dans toute la France. 180. Il a grandi dans une campagne en Gironde.
Dans toute la France, vous voulez dire probablement uniquement à Paris.
Probablement
dans l'Est.
Et dans le 11e.
Dans l'Est.
Et j'ai envie de vous dire, mais ces gens-là qui veulent imposer cette vision de Paris près de la nature, sans pollution, pourquoi ne se présentent-ils pas dans des élections, dans des villages à la campagne?
Mais
parce qu'il y a un moment.
Le but, c'est justement.
Mais c'est quoi le but? Je ne comprends pas.
Le but, c'est de de faire de Paris une ville avec des arbres, une ville
verte. Mais c'est impossible.
Bah, si,
faire de Paris la campagne est un faux, c'est une illusion, une chimère. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Les gens qui veulent vivre dans les villes, ils ne veulent pas vivre à la campagne. C'est un choix. Si vous voulez vivre auprès des fleurs, des forêts, des montagnes, bah, vous y allez. Enfin, il y a un moment, on ne peut pas avoir les deux, c'est impossible. Économiquement, ce n'est pas possible. Rue de Rivoli aujourd'hui, qui est bloquée depuis des mois, vous avez un record de dépôt de bilan, et vous avez une librairie, la librairie mythique anglaise Smith, qui est là depuis des décennies quand même. Il n'y a plus personne à l'intérieur. Il y a une réalité économique catastrophique.
Donc elle va y arriver à faire la campagne à Paris, puisque les gens n'iront plus
Et les vrais Parisiens seront à la campagne.
Comment ça se passe dans le sud chez vous, Eric? Tout va bien?
Oui, ça se passe pas mal. Il fait pas très beau aujourd'hui. Valérie, vous parliez de l'écoute de Sud Radio dans le Sud-Ouest, mais c'est très suivi aussi dans le Sud-Est.
Hein. Oui, très bien. Oui. Mais il y a des grandes villes aussi qui sont concernées par le stationnement, certainement.
Oui. Alors bon, oui, bien sûr, le stationnement, c'est un sujet, c'est un souci. Bon, vous savez, dans le Sud, à part quand vous entrez sur Marseille ou parfois de temps en temps à Nice, c'est pas les mêmes embouteillages que j'ai connus. Connaissez à Paris, ça n'a rien à voir. Mais la végétalisation, tout ça, c'est évidemment au cœur des préoccupations des différentes mairies.
Ouais.
Alors vous êtes vachement sérieux, hein.
Ouais. Et vous étiez dans l'humour.
Comment?
Vous êtes sur une note joyeuse aujourd'hui.
Bah, moi, je voulais faire un coup d'humour. Alors un coup de cœur en forme d'humour, parce que bon, c'est. Tout ça est tellement anxiogène. Vous voyez, je regardais jusqu'au titre du futur James Bond qu'on attend qu'il sorte plutôt pour maintenant le mois de mars 2021, qui s'appelle « Mourir peut attendre ». Vous imaginez, « Mourir peut attendre bon. ». On n'en peut plus. Alors moi…
Il y a eu « Demain ne meurt jamais ».
Mais avant, c'était en vie deux fois, au moins, il y avait un espoir.
Voilà, il y avait « Demain ne meurt jamais », il y avait des choses comme ça. Mais
Là, c'est « Mourir peut attendre ». Bon, très bien. Alors moi, juste, je voulais dire, écoutez, je voulais lancer un appel au gouvernement… très sérieusement humoristique, c'est-à-dire que plutôt que nous faire le supplice chinois du couvre-feu un coup à 21h, puis bientôt à 19h, peut-être pour un reconfinement local, allez-y, reconfinement pour tout le monde. Je veux un reconfinement, on n'aura plus de bruit dans les cités, on n'aura plus de bruit.
Vous n'aurez plus d'économie non plus.
On se portera mieux, les animaux de nouveau se rebaladeront dans les villes, dans les rues des villes. On a vu ici, en Méditerranée, des poissons qu'on ne voyait plus, qui s'approchaient du bord. Allez, reconfinez-nous.
Mais je ne comprends pas l'économiste.
Arrêtez le supplice chinois, le goutte à goutte, reconfinez-nous.
L'économiste libéral que vous êtes est évidemment ironique.
Oui, bien sûr. Parce que je suis ironique, mais parce que j'essaie de rire d'une situation qui se complexifie de jour en jour.
On va
flambée, elle est partout en Europe. Bon, la deuxième vague, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais c'est évident qu'elle est là. Et c'est vrai, vous avez raison, Valérie, c'est que les conséquences sur l'économie sont absolument monstrueuses. On n'en mesure pas le début du commencement en réalité. Ouais. Parce que vous savez, quand vous discutez avec les patrons de PME, de TPE, de petites entreprises qui ont pris les fameux prêts garantis d'État, vous savez, là, ce qui vous permet de vous endetter. En fait, la plupart d'entre eux ne savent pas du tout comment ils vont les rembourser, ces prêts garantis d'État. Derrière, quand on va soulever le couvercle de la cocotte minute, la situation économique et sociale risque d'être vraiment, vraiment, vraiment très dure. C'est pour ça que je voulais commencer par un truc souriant. Pour terminer, Valérie, vous m'en donnez l'occasion.
Beaucoup plus sérieux.
Un peu moins optimiste.
Alors, je peux toujours, dans le même sens, il y a un livre qui s'appelle un peu comme le futur James Bond, c'est les requins de la fin de vie.
Poisson, c'est vrai qu'on ne l'a pas présenté, votre livre.
C'était juste un peu d'humour.
Juliette, elle n'a pas fait
les choses. Il y a quoi qui peut comprendre, parce que c'est moi qui fais le livre. Par rapport à Paris, c'est vrai que les banlieusards aujourd'hui, pour revenir à Paris, c'est de plus en plus compliqué, que ce soit en transport en commun, totalement bondé, ou que ce soit en véhicule, on ne peut pas se garer, c'est assez infernal. Il faudrait aussi que Paris, à ce moment-là, prenne la station d'épuration des eaux usées de Paris dans sa ville, parce que pour l'instant, elle est en banlieue, vous voyez. Donc voilà, il faut être cohérent un petit peu. Et alors pour mon coup de cœur,
Alors je peux faire le coup de cœur sur votre livre, Les requins de la fin de vie, pour lequel je vous ai reçu effectivement,
Qui
est paru chez Michel Lafon et qui est un livre qui est d'une cruauté, d'une vérité glaçante
et qui donne de l'espoir.
Vous donnez des clés, mais c'est vrai que entre les pompes funèbres, les EHPAD, les aides à domicile, c'est assez catastrophique. Pardon, votre coup de gueule.
Eh bien, évidemment, c'est lié à l'assassinat odieux de Samuel Paty. Donc probablement d'ailleurs notre futur collège va s'appeler Samuel Paty. C'est la moindre chose qu'on peut faire donc dans notre ville de Wissous. Mon coup de cœur, c'est la religion. Normalement, c'est le symbole de l'amour. Et là, ce que j'ai constaté pas plus tard qu'hier, c'est que c'est le symbole de l'intolérance. Par exemple, en Irlande du Nord, l'Église catholique, hein, on n'est pas dans les islamistes là, c'est l'Église catholique, condamne la loi sur l'avortement. Par contre, le pape François, si je veux être objectif, défend le droit à l'union civile des homosexuels, mais il ne va pas jusqu'au mariage gay quand même, hein, il faut être raisonnable. Hein. Que le droit à l'avortement aux États-Unis est menacé du fait de la nomination de dernière minute d'un juge conservateur à la Cour suprême. Que les présidents américains, lorsqu'ils sont élus, prêtent serment sur la Bible. Vous voyez. Donc tout ça, effectivement, la religion en gros... Pour moi, c'est quand même le symbole de beaucoup, de morts. Or, normalement, c'est aimer son prochain. Ouais. C'est ça. Donc, effectivement, ça me heurte par rapport à ces islamistes radicaux qui ont tué des policiers, ont tué n'importe qui. Et donc, effectivement, les croyances, et moi, j'ai cru aussi très longtemps à des... comment dire, c'était pas des croyances religieuses, c'est des croyances politiques, hein, au communisme, au bonheur de tous. Et ben, je pense que les croyances font beaucoup de mal.
Oui, mais enfin, hein, jusqu'à récemment, ça ne tuait
alors,
pas.
Alors, j'en rajoute un petit peu pour montrer que il n'y a pas que les islamistes, il y a beaucoup de choses de croyances ont beaucoup tué dans l'histoire.
Enfin, donnez-moi des meurtres récents.
Vous semblez relativiser.
Non, je relative.
Je voudrais juste, à mon avis,
ça existe aussi, malheureusement.
Avoir le point de vue d'un non-croyant, parce que je ne suis pas croyant, il me semble que le problème, c'est que ce qu'il faut, c'est que les pratiquants de la religion prennent le maximum de distance avec le dogme tel qu'il a été écrit au départ. Mmh. Et le problème de l'islam, c'est qu'il n'y a pas cette distance comme a eu le Vatican avec Vatican II, par exemple, dans les années 50-60, avec une refonte. Je pense que le RAM, il est là. Si vous dites, on fait exactement uniquement ce qui a écrit, effectivement, on n'avance pas, il n'y a pas de réflexion. En revanche, si on laisse s'épanouir l'individu qui prend le texte qui lui fait du bien et se dit dans la société d'aujourd'hui, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je prends pas, là, effectivement, il n'y a aucun problème.
On va en reparler, évidemment. Moi, j'avais... une interrogation sur une phrase de Clémentine Autain qui a dit « Est-ce que ce pays a perdu la tête ?» Phrase qui est exactement identique à celle de Tariq Ramadan. Tariq Ramadan avait fait un tweet en disant «
Change les gens qui leur écrivent
des vannes. » le pays a perdu la tête. Alors après, il a changé sa phrase, mais enfin, je trouve que c'était pas spécialement malin de dire ça. Je sais pas si elle l'a fait exprès ou pas. En tout cas, c'est nul.
Attendez, je voudrais rebondir là-dessus. Clémentine Autain, elle était sur France Info il y a trois jours, dans un débat où, face à Gilles Claverol, spécialiste, notamment président du Printemps républicain, ancien préfet auprès de Manuel Valls, lui explique les problèmes du CCIF, notamment qu'ils engagent sur leur site internet un caricaturiste brésilien qui a gagné le concours de la meilleure caricature sur la Shoah en Iran il y a 5 ans. Et réponse de Clémentine Autain, je ne suis pas au courant. Donc à un moment, on interroge quand même quelqu'un qui n'est pas du tout au courant du sujet. Quand même. Il va falloir le dire.
Après, on ne peut pas faire des points entre les caricaturistes.
Un hasard, sinon de type qui est au Brésil.
Eric.
Oui, non, juste sur Clémentine Autain, parce que j'ai vu l'extrait. D'abord, j'aurais deux remarques à faire. C'est que parfois, moi, j'entends des journalistes sur certains plateaux de radio du service public interviewer des personnalités qui pensent comme eux, et c'est tellement flagrant, si vous voulez, que ça en devient extrêmement gênant. C'est-à-dire que, voilà, peu importe, je connais cette journaliste, bon, elle a toutes ses qualités, mais je veux dire, passer la pommade comme elle la passe à Clémentine Autain avec aucune question dérangeante, avec elle va dans son sens, elle la comprend, etc., c'est juste parfois extrêmement... on a du mal à respirer, quoi. Et sur la petite phrase de Clémentine Autain, bon, vous avez vu quand même que sur la France insoumise ou sur l'UNEF, y compris Jean-Michel Blanquer a quand même essayé de montrer qu'il y avait une responsabilité, en tout cas dans certains termes, entre ce qui s'est passé et la position de certains partis politiques ou de certains syndicalistes. Cette parole-là me semble se libérer maintenant. Alors peut-être qu'on en fait trop, peut-être que le gouvernement est passé maintenant à une offensive démesurée et subite, mais entre la sortie de Jean-Michel Blanquer et les remarques sur la nourriture halal dans les supermarchés de Gérald Darmanin, on a l'impression que le gouvernement ne sait pas comment prendre le sujet, le prend de manière assez maladroite d'ailleurs, en confondant tout et en mélangeant tout, parce qu'il sent que là, on a sans doute atteint un point de rupture dans la tête des Français avec cette décapitation. Et si Madame Autain veut faire de l'humour en disant que ce pays a perdu la tête, il y a parfois indirectement des discours ou des phrases qui peuvent entraîner que certains la perdent réellement, la tête.
Oui, oui. Parlons peut-être, restons sur le sujet. Moi, j'étais un petit peu désolée ce matin en préparant l'émission parce qu'on a parlé effectivement de Samuel Paty pendant plusieurs jours. Et je me dis, voilà, l'actualité reprend, le Covid, etc. Et puis quoi ? Et puis on va passer à autre chose, comme d'habitude, comme après Charlie Hebdo, comme après le Bataclan, comme après le Père Hamel, etc. La liste est longue et je ne sais pas ce qu'on peut faire pour continuer à parler, à peut-être mettre la pression pour que les choses continuent.
Je vais vous dire, ça va continuer, Mathieu, parce que la décapitation, c'est le début. Hein. Il va y avoir d'autres catastrophes comme ça, donc on n'en est pas sorti du tout.
Oui.
Je ne veux pas positiver de manière négative, mais enfin, malheureusement, ça va.
Mais
ça
le gouvernement a annoncé un certain nombre de mesures. Mais la suite, c'est quoi, encore une fois ? C'est la question qui se pose. C'est concrètement, quelles sont les mesures ? Je fais une petite parenthèse. J'ai vu ce matin Aurélien Véron, qui est très anti-Anne Hidalgo et qui tweete beaucoup sur la capitale. Il a montré hier soir, à côté de Belleville, bien après 21h, des affrontements entre bandes rivales à coups de mortier d'artifice. Donc, un, le couvre-feu n'est pas respecté. Deux, il n'y a pas de contrôle. On nous a annoncé plein de trucs. Je ferme la parenthèse. Ça n'a strictement rien à voir avec Samuel Paty. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, il y a des choses, des lois, des trucs qui
sont
imposés.
Il y a un travail à faire sur le judiciaire.
Et puis, il n'y a pas de suite derrière, Virginie.
Moi, il me semble que. Et là, j'ai été très frappée, peut-être pour la première fois. Autant l'émotion a été immense, très forte, pour Charlie Hebdo, le Bataclan, Arnaud Bertram, le Père Hamel, Mohamed Merah. Autant là. L'émotion a été très forte, mais ce qui est arrivé très vite, c'est la colère. La colère des enseignants qui ont dit, lorsqu'ils étaient dans la rue, mais nous, ça fait 20 ans qu'on tire des signaux d'alarme, ça fait 20 ans qu'on dit qu'on s'est fait agresser, insulter, qu'il y a des matières qu'on ne peut plus enseigner, que nos rapports avec les parents sont de plus en plus difficiles. Ça fait 20 ans qu'on alerte notre hiérarchie, ça fait 20 ans qu'on crie dans le désert. Et là, leur colère était très forte. Ils étaient, j'allais pas dire à peine surpris, mais ils ont dit, voilà, nous, on vit dans cet univers-là quotidiennement, personne ne nous a entendu. Personne ne veut nous entendre. Et je rappelle qu'en 2002, c'est l'année où est paru Les Territoires oubliés de la République. En 2004, c'était le rapport Jean-Pierre Aubin qui dit comment on a laissé l'islamisme pénétrer l'école et qui a probablement une forme de lâcheté collective de la gauche et de la droite depuis 20 ans ou 30 ans, qui a consisté à arranger les choses, lâcher ici, autoriser là parce qu'on est à la veille d'une élection et que finalement on est sous pression d'une partie de sa population. Et que c'est cette colère-là face à cette succession de compromissions, de renoncements, d'abandon, c'est cette colère-là qui ne lâchera pas. Et c'est cette colère-là qui fera que, peut-être, le pouvoir politique va être obligé de bouger. Alors, ça tombe sur Macron.
Mais il y a eu une colère après Charlie Hebdo, il y a eu une colère après le Bataclan.
Là, j'ai trouvé qu'elle avait été quasi immédiate.
C'était pas la même chose, la colère après Charlie. Là, c'est des gens, dont moi, je vais le dire, on se fait traiter de facho depuis 20 ans quand on dit, en gros, qu'il y a un problème dans certaines zones. Vous savez, il y a 30 ans, quand il y a eu la première affaire du voile, il y a eu deux personnalités à gauche qui ont été très courageuses, qui étaient les deux seules qui sont allées devant. C'est Finkielkraut et Elisabeth Badinter. Tout le reste du PS s'est mis à plat ventre, dont Jospin a dit, surtout, ne faites pas de vagues, ne faites pas de vagues, ne faites pas de vagues. Avec le ne faites pas de vagues depuis 30 ans, on en est là aujourd'hui et les gens en peuvent plus. Ils sont en train de dire, écoutez, c'est horrible, mais on avait raison. Voilà.
Moi, ce que j'ai remarqué quand même dans les médias, depuis cet assassinat odieux, c'est que la position du Rassemblement national par rapport aux autres, qui était très différent, puisque lorsque le Rassemblement national dénonçait un certain nombre de choses, on disait il faut faire le Front républicain, c'est les gens extrémistes, etc. Là, je vois que maintenant, quand j'entends des leaders du Rassemblement national par rapport aux autres, on ne voit pas trop la différence. Donc ça c'est nouveau. Je constate ça, c'est-à-dire qu'on a l'impression que des gens de gauche, encore plus des gens de droite, en fin de compte, viennent tout doucement sur ce que disait, et ce qui était intolérable il y a quelque temps encore, les propos du Rassemblement national.
Je ne comprends pas ce que vous dites. C'est pas parce que le Front National dit le Rassemblement national dit il pleut qu'on va dire il fait soleil. Il y a un moment, si le Front National a dit des choses qui étaient alertées sur des choses...
Mais on est d'accord. Non, mais ce que je dis, c'est que je constate un changement de positionnement de la droite et de la gauche par rapport à des choses où ils étaient visiblement en opposition par rapport au...
Mais le fait d'introduire le Rassemblement national, ça implique en gros que c'est les fachos qui sont en train de... Si on dit qu'il y a un problème avec l'islam politique, et je redis bien l'islam politique, pas l'islam. Eric.
Oui, pour répondre à notre ami, il y a quand même deux choses. C'est qu'il y a une partie de la gauche réelle, de la gauche réaliste, je devrais dire, Bernard Cazeneuve, Manuel Valls, Alors, qui sont socialistes, qu'ils revendiquent, socialistes républicains, même si Bernard Cazeneuve, quand on discutait avec lui, il vous dit, moi, je suis violemment modéré, vous voyez, c'est bon. Mais en fait, ils se rendent bien compte que ce pays est en train de basculer dans quelque chose que l'on ne veut pas, que l'on ne veut pas, que l'on ne peut pas tolérer.
Oui,
donc, enfin, c'est pas une gauche qui vient sur les plates-bandes du Rassemblement national. C'est simplement des gens qui ont été au pouvoir, les deux ont été premiers ministres, et qui constatent que ils n'ont pas fait suffisamment, mais que surtout, leur famille politique, une partie d'entre elles, a dérivé et n'a pas voulu se rendre compte de ce qui se passait dans les profondeurs de ce pays. Ouais. Et sur l'assassinat de ce professeur d'histoire, moi je dirais deux choses. La première, c'est que pourquoi est-ce qu'on est aussi bouleversé, aussi choqué ? Mais parce que le mode de mise à mort est le bout du bout de la barbarie possible lorsqu'on est un être humain. On ne peut pas imaginer décapiter quelqu'un. On ne peut pas l'imaginer.
Mais il y avait déjà eu un chef d'entreprise, je le rappelle,
qui a été
décapité.
Retrouvé sa tête sur un grillage. Oui.
Absolument, mais là, il y a la raison.
Il y a plus de 40 ans qui ont guillotiné quand même, en France.
Il y a aussi, il ne faut pas se payer de mots, mais il y a aussi ce que ça signifie. C'est-à-dire que la mise à mort d'un professeur dans l'exercice
absolument
de ses fonctions, c'est nier tout ce que nous sommes. Parce que souvenez-vous, pour faire un petit point d'histoire, qu'en 1848, lorsque la Seconde République naît, on pense que seul le suffrage universel pourra incarner la démocratie dans ce pays. Cette Seconde République, je crois qu'elle dure 4 ans. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas suffisant, le suffrage universel.
Ouais.
Voilà pourquoi le pilier central qui va devenir le pilier démocratie, c'est l'éducation.
Ouais.
Donc, mise à mort d'une barbarie inouïe de ce prof, c'est à la fois la mise à mort d'un être humain qu'on ne peut pas l'imaginer, mais c'est aussi, d'une certaine manière, la mise à mort du pilier républicain qu'incarne l'éducation.
Éric, on est obligé de marquer une petite pause et on se retrouve dans un instant avec vous et vous, auditeurs de Sud Radio, 0826 300 300.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. Nous commentons l'actualité compliquée, le débat autour de la religion, de la laïcité. Et on en parlait à l'instant parce que c'est un petit peu ce que je disais au début, c'est qu'est-ce qui va changer ? Qu'est-ce qui change ? Moi, j'ai eu une enseignante hier qui m'a raconté qu'elle a un enfant donc réfugié qui est arrivé dans une de ses classes en sixième, qui a 15 ans, qui ne parle pas français et qui refuse de parler français en cours de français. Elle l'a signalé, les autres profs lui parlent anglais. Et elle l'a signalé et on lui a dit, pas de vague, vous retournez dans votre classe, vous devez lui parler anglais. Donc, bon, ça n'a rien à voir sur le fond, mais ça a à voir quand même. C'est-à-dire que c'est un gamin qui a 14 ans, 15 ans, qui a une moustache, qui arrive... et on lui dit, vous vous débrouillez, quoi. On l'abandonne une fois de plus.
Moi, ce qui me choque, c'est que certains professeurs ont accepté de lui parler directement
en
anglais.
Pourquoi ? Absolument.
On est dans l'école de la République, le langage, c'est le français, tout le monde doit lui parler français.
Mais
s'il refuse de parler français, c'est son affaire.
Il faudrait peut-être faire signer une charte par les élèves sur les valeurs de la République, la laïcité, plutôt que de leur faire signer un règlement, on leur dit de ne pas manger du chewing-gum. Enfin, à mon avis, il y a quand même des priorités. Je ne suis pas sûr, non ?
Non.
Il y a une charte en disant vous devez respecter le principe de neutralité, laïcité, liberté. Peut-être
mais quand on voit il y a des réactions. Aujourd'hui, on voit le maire de Bron qui a été sa ville a été taguée, il a été menacé de décapitation. Et Jean-Luc nous évoquait un de ses collègues qui a reçu des menaces de mort parce qu'il avait affiché les caricatures. La population va être bien seule face à tout ça aussi. Éric Revel.
Bien sûr. La population est seule. Et vous voyez, je me faisais une réflexion, Valérie, quand on s'est remémoré l'horreur de ce chef d'entreprise, je crois, qui avait été également décapité. Je crois que ça se passait dans le nord de Paris, me semble-t-il, vers Roissy, enfin, je ne sais plus trop. C'est la faculté qu'on a à oublier avec une allure vertigineuse les horreurs qui nous ont frappés. Et c'est absolument incroyable.
Ouais.
On passe d'un drame à un autre drame, comme si notre mémoire voulait évacuer les souvenirs les plus douloureux et les plus difficiles à digérer mentalement. Mais quand vous additionnez tout ce qui se passe sans vouloir nous noircir le tableau, on s'aperçoit que ces attentats, ou de loups isolés, ou de bandes islamisées, il y en a quand même depuis des années un paquet dans notre pays. Et quand on additionne tout cela, on ne peut pas être optimiste.
Non.
Moi, ce qui m'a frappé tout de suite après cet odieux attentat, c'est des voix crédibles dans le monde du renseignement qui ont pris la parole ou dans le monde de la police et qui ont fait état de leur crainte que se multiplie ce type de faits dans les mois, dans les semaines qui viennent. Et alors, je ne suis pas là pour jeter, si vous voulez, la torpeur et l'effroi, mais vous avez raison, Valérie, il ne faut pas oublier ce qui s'est passé à Conflans-Sainte-Honorine, jamais. Mm. Et il faudrait d'ailleurs rappeler régulièrement, comme lorsqu'on a des otages détenus ailleurs dans le monde, jour après jour, il faudrait faire des piqûres de rappel sur les horreurs que nous subissons au nom d'un islam radical qui ne veut pas de bien, c'est le moins qu'on puisse dire,
Eric,
à notre civilisation judéo-chrétienne.
Éric, il y a juste une chose, je voudrais rajouter à ce que vous avez dit. Moi, je ne suis pas d'accord sur le fait qu'il faille être pessimiste. Je pense que ce qui est important, c'est que les gens qui auparavant étaient plutôt neutres, qui ne s'exprimaient pas, depuis une semaine, parlent, la parole est libérée, et pour ça, je suis plutôt optimiste. Pour moi, le danger, c'est pas spécialement les extrêmes, c'est les gens qui, au milieu, disent « Ah bah, on n'ose pas parler, on ne dit rien ». Vous savez, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était les gens qui disaient rien, le problème. Voilà, c'est ça. Et je pense que ces gens qui ne disaient rien sont en train de diminuer en nombre, que vraiment, les gens ont envie de s'exprimer, de dire qu'ils soutiennent la laïcité et la République, et pour ça, je suis optimiste.
Oui, mais si ceux qui soutiennent la laïcité et la République sont très isolés dans leur coin, et s'ils ne sont pas soutenus par chacun leur hiérarchie, chacun... les structures qui sont au-dessus d'eux, il ne se passera rien. Et moi, j'ai été très frappée de voir que dans l'éducation nationale et dans d'autres domaines de notre société, personne ne soutient personne et que finalement, tout le monde lâche un peu du terrain au fil des années, au fil du temps, au fil des occasions, et que c'est l'ensemble de la société qu'il faut réarmer et à qui il faut expliquer. La laïcité est une valeur fondamentale de notre société. Il faut la défendre au quotidien, il faut la défendre de façon intransigeante, de façon ferme, et pas trouver des arrangements raisonnables ou déraisonnables.
Justement, sur la laïcité, moi, il y a quelque chose... Alors, pour moi, ce n'est pas un phénomène religieux. C'est le port du voile, par exemple. Moi, ce n'est pas par rapport à la religion qui me pose problème. C'est pourquoi les femmes sont obligées, enfin obligées ou pas, parce qu'il y en a qui disent elles sont libres. Ok, je veux bien entendre, enfin, je veux bien éventuellement entendre ça. Mais pourquoi les femmes auraient besoin de se cacher, le visage, les cheveux, etc., par rapport aux hommes? Donc c'est ça, c'est ce machisme, moi, qui m'effraie, qu'encore au XXIe siècle, on en est encore à ce genre de choses, la femme... C'est pas du tout l'égal de l'homme.
Quelquefois dès l'âge de 5-6 ans.
Oui.
Ce qui montre le vrai problème.
Ce qui existe depuis et qui est dénoncé, je pense au maire de Chalon-sur-Saône.
Oui, mais il y a un problème de loi.
C'est ça la question.
Vous ne pouvez pas interdire le port du voile chez des majeurs. C'est pour ça qu'on ne peut pas l'interdire dans les facs. Parce que si on veut faire ça, il faut une réforme complète de la Constitution, parce que c'est anticonstitutionnel d'interdire le port du voile chez des majeurs, et on en a pour 20 ans.
Alors, le sondage dit 60% des Français pensent que l'exécutif ne va pas assez loin. L'exécutif ne met pas tout en œuvre pour lutter contre la menace terroriste. C'est 10 points de plus qu'en mai 2018. 83% jugent que l'expulsion d'un certain nombre d'étrangers fichés S est efficace. Sauf que la réalité, c'est qu'il y a des recours. On l'a évoqué ici, il va y avoir des recours. 79% jugent que la dissolution d'associations qui soutiennent l'islam radical est efficace. La fermeture des mosquées, 72%. Mais l'application, comment ça va se faire?
Valérie, juste, il faut quand même, là, à mon sens, il faut faire attention à l'opinion publique parce qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On est dans une démocratie qu'on veut préserver, justement. On est dans un état de droit. On n'est pas dans une dictature. Si on était dans une dictature, on pourrait prendre des décisions du jour au lendemain et elles ne seraient même pas condamnées ou condamnables par les juridictions. On est dans une démocratie avec un état de droit. Donc, quand on décide de fermer la mosquée de Pantin ou quand on décide de dissoudre une association, il y a des recours juridiques parce que, précisément, on est dans un état de droit. Mais on ne va pas le regretter, quand même.
Non, mais
on défend cet état de droit.
On va regretter qu'on a mis du temps.
Éric, le problème,
donc,
c'est le temps.
Donc, il y a des désavantages. Il y a des désavantages. Mais on ne peut pas aller plus vite que cela.
Mais si, on peut aller plus vite. Évidemment qu'on peut aller plus vite, Éric. C'est pas, il n'y a pas le choix. Vous êtes en train de dire il y a d'un côté la dictature, du côté il faut attendre. Je suis désolé, l'imam de la mosquée de la rue Jean-Pierre Timbaud, hein, à Paris, il a fallu 20 ans pour l'expulser. 20 ans alors qu'il tenait des prêches antisémites depuis 20 ans, que le protocole des sages de Sion était en vente dans la librairie en face. On peut penser qu'il y a un juste milieu entre attendre 20 ans et la dictature, vous voyez.
Éric Revel est de gauche,
si on a attendu 20 ans, il ne faut pas laisser croire aux gens que pendant 20 ans, la justice n'a rien fait, ne s'est pas saisie du dossier. Mais ça veut dire qu'il y a eu des recours.
Ouais,
qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse?
Éric, je voulais vous interroger...
Il ne faut pas de recours, il faut être condamné d'office.
Éric, je voulais vous interroger sur le nombre de radicalisés dont Gérald Darmanin a dit qu'il fallait les renvoyer dans leur pays. Tout d'un coup, ce chiffre est sorti. Je crois qu'il y en a 200...
231.
Voilà.
Oui, c'est ça, oui.
Donc, tout d'un coup, on apprend que l'exécutif sait pertinemment, et peut-être l'exécutif d'avant, qu'il y a 231 radicalisés et qu'on peut les renvoyer ou qu'on va essayer de les renvoyer.
Il y en a 4000 des radicalisés.
Moi, je m'interroge. Pardon, je termine mon interrogation. Moi, je m'interroge sur pourquoi on ne l'a pas fait hier ou avant-hier, si on décide aujourd'hui qu'ils sont dangereux. Et pourquoi on le fait maintenant, sinon sous la pression
très... Non,
je vais vous répondre.
Mais ça n'a toujours pas été fait.
Je ne suis pas homme politique, mais je vais vous répondre, Virginie. À mon avis, il y a deux aspects dans ce que vous venez de dire. Il y a l'aspect... On sait combien il y en a et combien
exactement.
On pourrait expulser. Il y a l'aspect communication. Gérald Darmanin, quand il dit on en a 241 qu'on va expulser, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il répond à une colère, celle dont
c'est
on parle depuis l'assassinat de ce prof, et il essaie de colmater en termes de communication. Oui. Mais je vous donne mon billet que d'ici 15 jours, les 241 ne seront toujours pas expulsés.
Même
parce
d'ici
que vous allez
avoir
des avocats qui vont évidemment monter au créneau pour dire que ça ne peut pas se passer aussi vite.
Oui, bien sûr.
Donc, c'est comme sa sortie sur la nourriture halal. Ouais. Moi, je trouve ça d'une maladresse absolument rocambolesque.
Donc, on est en train
du Sarkozy verbal au petit pied. Ouais. Il essaie d'allumer une sorte de contre-feu pour dire on est là, on est là, on a pris la mesure des choses. Mmh. Et pour moi, ça, ces déclarations, c'est que de la com.
On est d'accord.
Enfin, on est injuste avec Gérald Darmanin, c'est qu'il a fait 2 heures d'interview, qu'il a été plutôt très bon, et que cette petite phrase est la seule phrase qu'on ait retenue. Alors, maladresse.
Ce qu'on est en train de dire quand même autour de la table, c'est que finalement, le terrorisme a 3 armes. C'est la Kalachnikov, le couteau et le droit français. Mmh. Donc voilà. Oui. Donc il y a un vrai souci. Moi j'aimerais qu'on entende Dupond-Moretti, qui est très très silencieux. Je ne l'ai pas entendu ces derniers jours.
Ah, c'est catastrophique.
Mais je pense qu'il y a un travail au niveau de la justice.
Il a fait une grande interview dans le Parisien, mais effectivement, il a pas dit grand-chose.
Le problème, il est là.
Mais si vous voulez, ce qui est super intéressant dans cette interview, Valérie, c'est à mon sens pas ce qu'il dit.
Non.
Parce qu'il a défendu des causes, notamment, je pense, des gens qui étaient limite islamistes lorsqu'il était avocat. Donc, il est un peu gêné aux entournures. Mais surtout, ce qui est le plus intéressant dans cette interview, c'est la photo. Pourquoi? Parce qu'on essaie de le mettre en situation. On le met en costume devant une bibliothèque pour essayer de lui faire prendre la statue du ministre de garde, du ministre garde des Sceaux, ministre de la Justice. Ça veut dire que si on essaie de lui faire prendre la stature au niveau de l'image, ça veut dire qu'il ne l'est pas et qu'il sent qu'il ne l'est pas dans le costume. Mmh. Et c'est ça le problème de Dupond-Moretti depuis le début.
Je suis d'accord avec
Eric. À mon avis, dans le costume du ministre de la Justice.
Eric, je suis assez d'accord avec toi, y compris sur ce que tu disais auparavant. Tu dis que c'est pour des raisons de communication, etc., que Gérald Darmanin. Mais il y a aussi des raisons politiques. Parce que on apprend pratiquement en parallèle que les élections départementales régionales risquent d'être reportées, que probablement si les 231 ou les 241 ne sont pas expulsés, tu l'as dit, parce qu'il y a des recours, etc., ça va profiter à qui? Parce qu'en fin de compte, derrière, c'est la présidentielle qui est en jeu. On disait qu'il y avait un plafond de verre. Est-ce que le plafond de verre, aujourd'hui, dans les prochaines semaines, il va vraiment exister au vu de l'incapacité, l'incurie, l'impuissance? Peut-être juste, hein, par rapport à la justice, on est une démocratie. Face à nous, on n'a pas une démocratie. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit quand même respecter la démocratie? J'entends, je ne suis pas complètement opposé, mais on est impuissant.
Bon.
Et donc, effectivement, le Rassemblement national ne sera jamais aussi près de l'élection présidentielle. Peut-être que c'est eux qui vont régler le problème, ou pas?
On va marquer une pause, on va parler du Covid aussi, parce que c'est l'actualité très forte du jour, avec une dégradation sanitaire. Ce matin, Martin Hirsch a eu des mots extrêmement forts, extrêmement durs, en parlant d'une situation qui serait pire que celle de mars. On en parle avec vous, 0826-300-300, à tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, vous retrouverez ensuite André Bercoff. Le Covid, la Covid est en train d'envahir nos hôpitaux face à la dégradation du contexte sanitaire sur l'ensemble du territoire. L'exécutif, hier, vous l'avez vu, a décidé de renforcer la lutte contre le Covid. C'était une conférence de presse au cours de laquelle hier, Jean Castex a annoncé que le couvre-feu allait être étendu dès ce soir à 38 nouveaux départements. La moitié des départements sont désormais concernés, 46 millions de Français, situation grave, des mots extrêmement forts, je le disais, de Martin Hirsch. Alors Eric, vous ironisiez tout à l'heure, en début d'émission, sur le fait qu'il fallait reconfiner tout de suite, mais est-ce qu'on n'y va pas directement vers le reconfinement?
Si, visiblement, moi je pense que c'est la prochaine étape. Alors vous avez noté aussi que dans les déclarations d'hier, Jean Castex dit que d'ici une semaine, le gouvernement et les autorités sanitaires feront un point assez complet sur les premiers couvre-feux qui ont été mis en place. Hein, je pense à ceux dans notre région des Bouches-du-Rhône, par exemple, pour Marseille et Aix-en-Provence. Donc, ça veut dire que dans une semaine, le gouvernement dira est-ce que le premier couvre-feu qui a été mis en place dans cette région est efficace ou pas ? Est-ce qu'il a fait baisser la courbe d'incidence et la courbe de contamination ? Bon, quand vous voyez qu'il y a eu 40 000 personnes testées positives hier, vous avez l'impression que la flambée est inexorable. Alors, je ne dis pas que je souhaite le reconfinement, parce que psychologiquement, on parlait de l'économie.
C'est très difficile. Ouais.
Mais il y a aussi l'aspect psychologique.
Absolument.
Pour l'instant, les Français donnent l'impression qu'ils suivent les directives de leur gouvernement, mais psychologiquement, être de nouveau à l'intérieur, pour ceux d'ailleurs qui n'ont pas beaucoup de mètres carrés, ou même être de nouveau à l'intérieur pendant des semaines et des semaines, ça pose un problème de société lourd qui va au-delà de la question économique. Oui. Donc, je faisais un peu d'humour tout à l'heure sur le confinement, parce que c'est vrai qu'aussi, moi, c'est une période que j'ai vécue ici dans le Sud à ce moment-là. D'ailleurs, j'étais tout seul. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai aussi apprécié le silence, j'ai aussi apprécié la nature, enfin, les trucs auxquels on passe complètement à côté. Oui. J'étais confiné dans des conditions spéciales, c'est vrai. Mais le reconfinement, si on doit y aller, je pense qu'il sera plutôt local. Enfin, je sais pas.
Oui,
ce que...
et on ne reconfinera pas l'ensemble de la France.
Non,
comme
je ne pense pas, parce que là, si c'est un reconfinement total au-delà de l'aspect psychologique, alors là, je pense que l'économie est totalement par terre. Et que là, on va vers un mouvement social puissant de chômeurs dans les rues.
Mais je remarque quand même qu'il y a une deuxième vague, contrairement à ce qui avait été dit. Je vois même là, à l'instant, Johann Freund, qui est quelqu'un qui était plutôt rassurant, un médecin de la pitié, qui était plutôt rassurant, et il dit « S'il y a une façon pour moi de profiter du fait que mon compte est suivi par beaucoup de sceptiques, pour ne pas dire plus, c'est de leur rappeler et confirmer que la situation est actuellement très grave et que les hôpitaux débordent à cause du Covid. »
Oui, mais alors, moi, je vais faire le naïf, excusez-moi, mais qu'est-ce qui se passe depuis qu'il y a le couvre-feu ? Bah, les jeunes, avant, quand ils avaient une soirée, ils rentraient avec le dernier métro, maintenant, ils rentrent avec le premier. Ils font des soirées de 21h à 6h du matin. Il suffit d'aller sur Instagram, on voit des stories, elles existent, on voit des rassemblements, elles existent. Hier, il y avait un sujet sur TF1 intéressant qui montrait que les villes où il y a le plus de recrudescence du Covid, ce sont celles où il y a le plus en plus de gens qui n'ont pas de masque dans les rues. Et on filme ça et on dit oui, ils n'ont pas de masque. Moi, je pose une question, pourquoi 130€ l'amende et pas 2000€ l'amende ? Peut-être que ça va inciter vraiment les gens à faire attention, à avoir des mesures réellement répressives. Il y a 6 mois, on nous disait qu'il y avait un risque de saturation des hôpitaux et des urgences, ce qui est normal. Est-ce qu'on a construit des structures avec plus de lits en 6 mois ? Rien, zéro. Donc, je ne comprends pas.
Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On vous l'a expliqué que c'était...
Mais quand même
Non, parce que vous faites quoi des lits ? Je veux dire, il faut des médecins, il faut des infirmières, il faut des réanimateurs.
Je vais vous prolonger ce que je disais. On peut faire aussi une passerelle entre le privé et le public, qui n'a pas été fait correctement ces derniers mois. Dans le privé, il y avait des gens qui disaient « Mais on attend que ça, venez nous chercher. On n'a personne dans le privé, on a des médecins, on est prêt à faire quelque chose et on ne va pas les chercher. »
Oui, Virginie ?
Je sais pas, mon camarade a abordé différents sujets. Ouais. Je voulais réagir à chaque fois. J'étais d'un avis différent à chaque fois, mais maintenant je sais plus.
Alors, c'était sur la vague du Covid qui est là, inexorable.
Les rassemblements de jeunes.
Les jeunes, j'imagine que vous en connaissez comme moi. Ouais. Moi, j'en connais des jeunes. J'en connais qui font pas attention, mais j'en connais une grande majorité qui font attention. Et quoi que vous en disiez, bien sûr qu'on voit des vidéos circuler, bien sûr qu'on voit des gens se circuler sans masque, mais moi je suis au contraire très frappée de voir que la très grande majorité du pays suit à peu près.
Mais
à peu
la minorité qui fait circuler.
À peu près.
C'est le problème.
Vous n'avez pas parlé d'une minorité tout à l'heure, je tiens à souligner qu'il s'agit d'une minorité et que la majorité suit à peu près les consignes.
Minorité agissante.
Ce que je veux aussi dire, c'est que oui, cette deuxième vague est très ennuyeuse et très violente, et elle le sera d'autant plus que les hôpitaux qui, là, continuent encore à soigner ceux qui ne sont pas malades de la Covid, vont se retrouver d'autant plus débordés qu'ils ne pourront pas bénéficier, comme ils ont bénéficié lors du confinement, du renfort des autres établissements hospitaliers qui étaient vides, parce que dans leur région de France, il n'y avait pas encore de malades. Je rappelle que pendant le confinement, les malades étaient très sectorisés, dans le Grand Est, en Île-de-France, enfin, il y avait des endroits qui étaient totalement épargné. Là, le virus est répandu sur le territoire de façon très homogène, et donc ça va être chacun pour soi. Et chacun pour soi dans un système où, de façon générale, les lits sont occupés à 80% quoi qu'il se passe, en dehors même de la Covid, ça va très vite devenir l'embouteillage. Et le problème majeur qui se pose aux hôpitaux, c'est pas tant de faire des lits, là apparemment c'est possible, c'est pas tant d'avoir du matériel, pour l'instant ils en ont encore, c'est qu'ils n'ont pas de personnel. Il y a des postes d'infirmiers manquants, il y a des postes de médecins manquants, et ces postes-là ont été très, très, très partiellement comblés depuis 6-8 mois, mais ce qui est vrai, c'est qu'on en est quasiment à la situation d'avant le confinement.
Oui, Eric,
vous voulez... Juste parce qu'on parle des difficultés des hôpitaux qui sont bien réelles. Hein. Alors là, ça dure depuis des années. Je ne sais pas si vous avez vu l'interview de Jean-Pierre Jouyé, je crois, c'est dans l'Observateur, qui est un homme de gauche, qui a été patron de la Caisse, qui a été secrétaire général sous Hollande. Il admet que le problème des hôpitaux commence avec la mise en place des 35 heures.
Absolument.
Jean-Pierre Jouyé. Jean-Pierre Jouyé.
Bien sûr.
Après l'adjournamento de la gauche sur la montée de l'islamisme radical dans notre pays, voici qu'une partie de la gauche dit « les mesures sociales que nous avons prises n'étaient sans doute pas les bonnes ». Merci M. Jouyé, merci Mme Aubry, merci M. Strauss-Kahn d'avoir mis en place les 35 heures dans les hôpitaux. Merci
partout et ailleurs.
Brigitte, une auditrice nous dit « les zones écarlates avant les vacances ont eu le droit de s'éparpiller partout, donc les contaminations ont continué et se sont multipliées ». Alors, je ne sais pas si c'est trop tôt, mais c'est vrai que les vacances... c'était une question à laquelle le gouvernement aurait peut-être pu réfléchir. Mais ça
l'été
aurait... Mais même là.
Mais alors,
là, tout le monde est parti en vacances.
Est-ce qu'on aurait pu empêcher les Français de partir en vacances au mois de juillet ou au mois d'août? Non.
Je parle là des vacances scolaires. Les vacances scolaires.
Tout ça, on pourrait.
Non, mais Paris, je prends la région parisienne ou des régions comme Montpellier qui étaient zone écarlate. Il y a des gens qui vont bouger, aller d'une région à l'autre. On sait que c'est un facteur de contamination. Donc, on va contaminer d'autres départements.
Valérie, on parle d'une deuxième vague. Mais moi, je parlerai, et ce n'est pas parce que je suis devin, mais probablement d'une troisième et d'une quatrième vague, puisque, vu la stratégie qu'on emploie, on va reconfiner ou plus ou moins reconfiner, ce qui va faire au bout d'un moment, les statistiques vont baisser, on va pouvoir ressortir, et puis, comme le virus est toujours là, ça va reprendre tant qu'on n'aura pas le vaccin. Et comme on ne teste pas toute la population, parce que ça serait le seul moyen pour qu'on soit sûr, et comme on ne peut pas le faire ou on ne veut pas le faire, eh ben, on sera toujours un train de retard. Et donc, il y aura probablement, malheureusement, une troisième et peut-être une quatrième vague, tant que le vaccin n'aura pas été trouvé réellement.
Mmh. Oui.
Ce que j'entends, c'est que l'horizon qui aujourd'hui est à peu près regardé et annoncé par les médecins, c'est au moins jusqu'à l'été prochain, déjà, sans même préjuger d'une troisième ou d'une quatrième vague. C'est-à-dire que rien que dans l'état actuel des choses, il va falloir vivre avec ce virus jusqu'à la fin de l'année scolaire, ce qui est un terme extrêmement long à supporter pour tout le monde.
Oui, mais on parle du reconfinement. Le gouvernement a dit qu'il n'y aurait pas de reconfinement général, mais il peut y avoir un très grand nombre de régions reconfinées totalement. On voit que l'Irlande a reconfiné, il y a des pays, c'est extrêmement rigoureux. Et moi, je voulais juste dire un mot sur les gens qui nous disent qu'on est en dictature.
Qu'ils aillent en dictature, ils vont comprendre.
Mais allez voir, la Chine est venue, moi je m'interrogeais sur le fait que la Chine soit venue à bout du virus. On m'a raconté que les gens qui arrivent en Chine de voyage, ils sont... bracelet électronique mis en quarantaine dans un hôtel du gouvernement. À Tel Aviv, il y a une jeune femme que je connais qui est repartie là-bas, qui vit là-bas, 15 jours en quarantaine chez elle. Et pour vérifier qu'elle est bien chez elle, la police vient, sonne et envoie un drone pour monter à l'étage de sa fenêtre pour vérifier qu'elle est bien chez elle. Donc il y a des contrôles qui sont infiniment plus stricts à l'étranger.
Je trouve vous soulignez un vrai problème. J'ai l'impression que pour l'instant en France, ça c'est mon impression, c'est que soit on parle d'un confinement, bon pourquoi pas, soit on n'arrive pas à gérer la situation quand elle n'est pas complètement bloquée.
C'est-à-dire
que vous le dites
avec contrôle.
Il y a du monde dans le métro, il n'y a aucune distribution de gel dans le métro, surréaliste. C'est quand même fou, alors que c'est pas très compliqué d'installer du gel. Enfin, je pense qu'il y a des choses qui sont pas extrêmement impossibles.
Oui, chacun peut aussi prendre du gel, un cube de gel.
Oui, mais on peut penser qu'un service public, il peut y avoir en sortant.
Chacun peut être acteur de son propre.
Il y a des distributions de gel dans les restaurants. On a fermé les restaurants. Il y a pas de gel dans le métro. On le laisse ouvert. Voilà. Il y a un moment, les gens aussi peuvent faire quelque chose. Il y a les pouvoirs publics qui le fassent.
Dans le métro, on porte un masque. Dans les restaurants,
Eric, vous en pensez quoi de ça, du fait que les contrôles n'ont peut-être pas été assez rigoureux en France?
Bon, on peut toujours refaire l'histoire, mais je vous dis, Valérie, si on avait dit aux Français sortir de deux mois pénibles de confinement, vous allez rigoler, chers Français, il n'y aura pas de vacances au mois de juillet ou au mois d'août, où on va faire un numerus clausus, il n'y en aura qu'un certain nombre qui partiront sur les plages. C'était pas gérable. Non, moi, ce que je trouve interpellant quand même, si vous voulez, c'est qu'on a aujourd'hui un Premier ministre qui s'appelle Jean Castex, qui est l'ancien monsieur des confinements réussis.
Ou raté.
Bon, C'est ce qu'on nous avait dit. Ouais. Bon, le monsieur déconfinement qui est Premier ministre aujourd'hui, je ne suis pas certain que si on avait totalement bien déconfiné, et pas un peu dans la brutalité, vous voyez, on avait tellement envie de respirer que je pense que tout le monde aussi s'est sans doute un peu laissé aller. Mais Jean Castex, je ne sais pas s'il a loupé ou pas le déconfinement, mais ce qui est sûr, c'est que ce qu'il est en train de mettre en place de manière graduelle, et je pense au couvre-feu, Valérie, je ne suis pas certain, encore une fois, je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, je n'ai aucune compétence, je ne connais rien à la médecine ni aux infections, mais je n'ai pas l'impression que ces demi-mesures, en fait, vont avoir des résultats très probants sur la flambée d'épidémie. En revanche, c'est l'aspect psychologique d'une politique qui est mise en place graduellement qui prépare les Français à autre chose, je pense. C'est ça, en fait. Ce n'est pas tellement sur les résultats du couvre-feu que le gouvernement va être attendu. C'est l'idée qu'il nous prépare sans doute à des reconfinements locaux. Et quand vous voyez comment, encore une fois, dans une région comme la nôtre, dans les Bouches-du-Rhône, au démarrage, la fermeture des restaurants a posé un problème de concertation politique entre le Paris, le haut, et le sud, en bas, et les élus locaux, vous imaginez s'il y a des reconfinements partiels ou locaux, ce que ça va donner comme considération, comme discussion entre les élus locaux et le gouvernement en place. Moi, je pense qu'on nous prépare à ça. Mais encore une fois, le couvre-feu, pour moi, c'est un pis-aller.
Le couvre-feu, c'est un demi-confinement, c'est un confinement nocturne.
Oui,
mais c'est effectivement ce vers quoi on risque d'aller.
Ce ne sera pas 21h, ce sera 19h la semaine prochaine.
De toute façon, on change d'heure ce week-end, donc déjà, ça va être une fois moins. Non, mais moi, je suis inquiet sur le retard technologique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on a eu le confinement, il a fallu 2 mois pour qu'on mette au point une attestation électronique. Ouais. C'est terrifiant, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Valérie, c'est qu'il y a des pays qui arrivent à gérer les choses avec les drones, à vérifier tout ça. Et j'ai l'impression que sur tout ce qui est nouvelle technologie.
C'est pas les mêmes régimes.
Israël est une démocratie.
L'application digitale, quand même.
Oui, l'application digitale.
Non, mais justement, parce que si vous voulez, le fiasco a été total, là, il y a une nouvelle. Bon, j'ai essayé de regarder un peu, je ne comprends pas grand-chose.
Oh, si, elle est plutôt bien. Honnêtement, elle est plutôt bien foutue.
J'ai pas chargé, mais surtout, moi, ce que je note, c'est que les gens qui sont les plus dans la cible, même si tous les trans d'âge sont touchés, ce sont les 65 ans et plus.
Je m'en vais, moi.
Il y aura très peu de gens de 65 ans et plus qui vont télécharger cette application. Et pourtant, c'est eux qui sont les plus en risque.
On a tous des parents qui aujourd'hui ont quand même des téléphones portables. Alors effectivement, ils ne savent pas tous s'en servir très bien. Moi, j'ai trouvé que l'application était plutôt pas mal foutue parce que vous avez les chiffres des nouveaux clés, des nouveaux cas, l'incidence, l'occupation des lits, comment se déclarer, où trouver un laboratoire.
Ça a été présenté comme le couteau suisse de la Covid.
J'ai trouvé que c'était plutôt pas mal foutu comme truc. Mais écoutez, on va voir si les Français seront plus séduits par cette
application. Enfin, couteau suisse, mais Jean Castex n'avait même pas le Pinel précédent.
Oui, c'est vrai. merci à vous, Eric. Merci beaucoup. Merci à Virginie, Jean-Luc et Mathieu. On se retrouve lundi. Très bon week-end. Oui, et bon courage à tous.